L'écho. L'écho.
Vos paupières sont lourdes.
Quand j'ouvre une école, je ferme une prison.
Arrête, tu me fais peur.
L'écho.
I have a dream.
Le patrimoine a dit vrai.
L'écho des cartables.
Écoutez, taisez-vous, ça commence.
L'écho des cartables.
Des cartables.
L'écho des cartables.
L'émission des élèves des écoles de Montpellier Sud.
Bonjour et bienvenue dans l'écho des cartables sur Divergence FM. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil. Moi c'est Hichem.
Et moi c'est Oumaïma.
Nous sommes les élèves de CM1-CM2 de l'école Jules Simon à Montpellier. Nous vous proposons de passer un moment que l'on espère agréable.
Pour cette 15e émission, la dernière de la saison, voici ce que vous pourrez entendre.
Prenez vos motos et vos tongs, car nous ferons le tour des 4 écoles dans le monde.
Après la Zig du jour et Jennifer Lopez, nous aurons un invité surprise qui nous parlera des séries.
Puis, des élèves vous raconteront notre séjour en classe verte.
Mais tout de suite, parlons d'un bâtiment qui a été construit tout près de notre école il n'y a pas longtemps.
Retrouvons Lucie, Lucille, Guillaume et Guillermo. Attention, ce sont bien 4 élèves différents. Le hasard fait aussi des blagues.
En tout cas, elles sont meilleures que les tiennes. Allez, c'est parti.
C'est vrai, en effet, maintenant les travaux sont terminés.
Ils ont duré plus d'un an.
Dès que le bâtiment a été mis en fonction, on a d'abord vu apparaître un drapeau bleu, blanc, rouge tenu par un grand mât.
Des gens bizarrement déguisés entraient et sortaient toute la journée. Vous devinez ce qu'abrite ce bâtiment ? Et à quoi il sert ?
Peut-être ces gens préparent-ils un carnaval ?
Mais non, non, moi je sais que ce sont des avocats qui font ces allées-venues.
Des avocats, j'adore ça avec de la vinaigrette.
Pas du tout, mes amis. En fait, c'est la nouvelle cité judiciaire de Montpellier, la cité judiciaire Méditerranée.
Et les personnes que l'on voit dans la rue sont des greffiers, des juges et des avocats avec leur robe noire, mais ils ne sont pas comestibles.
Suivez-nous, chers auditeurs, pour une visite de ce tribunal tout neuf à la rencontre de son président, de la responsable du greffe, d'un avocat et d'une greffière.
À l'entrée, nous devons d'abord passer dans une porte spéciale qui détecte les objets métalliques.
Donc ici, vous êtes dans une nouvelle cité judiciaire.
Madame Rosa, directrice du greffe.
Vous avez dû voir les travaux parce que vous êtes vraiment tout à fait à côté. Donc on a ouvert il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a ouvert au public le 3 janvier. Alors on va faire vraiment comme si vous étiez des gens qui venaient chez nous. Hein. Première mesure, vous êtes dans un tribunal, donc c'est la sécurité. Je suis sûre que vous êtes venus tous sans pistolet, sans fusil, sans couteau. Alors on va faire comme si vous rentriez, parce que ce soit chez nous ici, ou au tribunal de grande instance, ou à la cour d'appel, on en parlera tout à l'heure, pareil. Vous avez un contrôle de sécurité à assumer.
D'ailleurs, Oumaïma, après avoir enlevé tous les objets métalliques qu'elle avait sur elle, continue à faire sonner la machine.
Elle doit certainement nous cacher quelque chose.
La visite continue avec une première salle d'audience.
Elle sert à réunir les accusés, les témoins, les plaignants, ceux qui réclament la justice et la cour, les juges, les greffiers, tous les professionnels du tribunal.
Voilà, donc là vous êtes vraiment dans une salle d'audience. On a 3 salles d'audience comme ça, ce sont les mêmes. Donc aujourd'hui, là, dans l'après-midi, il va y avoir ici une audience du Conseil des Prud'hommes. Les avocats, vous voyez, sont devant. Vous voyez, les avocats sont en robe. Et les juges se mettent de l'autre côté de l'estrade. Vous avez un président.
Dans un angle de la pièce, une statue de Marianne était posée.
Elle représente la République et le peuple.
Comme le drapeau tricolore, la Marseillaise et la devise de la France, liberté, égalité, fraternité.
J'étais plutôt impressionnée parce que ce n'est pas un endroit où l'on va souvent.
C'est la justice qui impressionne. L'ambiance est sérieuse, stricte, les gens ont l'air sévères.
Le juge disait de façon autoritaire.
Jugement prononcé.
Messieurs, dames, bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Affaire Madame contre Madame. Oui. Jugement prononcé. Affaire Mademoiselle contre Madame. Approchez, Madame. Le Conseil, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déboute Mademoiselle de sa demandeur supplémentaire et congé pays afférent, cette demande étant injuste et mal fondée, et condamne Madame à verser à Madame la somme de 650 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jugement prononcé. Donc, suspension d'audience pour venir en composition complète.
Dans la pièce, j'ai compté 7 avocats.
Pour chaque affaire jugée, il y avait un avocat, pour le plaignant et un autre pour l'accusé.
J'ai pu parler avec l'un d'entre eux. À quoi sert un avocat ?
Un avocat, c'est pour assurer la défense de certaines personnes, du justiciable, qui est présent effectivement devant un tribunal, quel qu'il soit.
Maître Morat, avocat.
Là, on est au Conseil des Prud'hommes à Montpellier, ça pourrait être devant une cour d'appel ou devant un tribunal de grande instance. Il y a un procès avec deux parties et l'avocat assure la représentation de l'une et un autre avocat assure la représentation de l'autre partie. Voilà, on porte la parole du client, on défend les intérêts du client qui nous constitue ou en demande ou en défense dans un procès.
Pourquoi êtes-vous habillé comme ça ?
C'est très ancien, c'est une robe d'avocat qui caractérise notre ordre et notre profession. On est avocat parce qu'on a cette robe-là. À l'origine, de manière très ancienne, les avocats étaient des ecclésiastiques qui avaient une robe de bure, en fait. C'était des prêtres. Il y a tout un certain nombre de symboles sur cette robe, en particulier les pitoges, qui caractérise ce qu'était l'avocat il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles en arrière. La robe de l'avocat est aussi une protection. On ne peut pas dire n'importe quoi à un avocat quand il a une robe sur lui. Et ce n'est pas une armure, on ne peut pas le voir comme ça, mais ça peut être considéré comme ça de manière très imagée.
Merci, monsieur l'avocat.
Merci beaucoup.
Il avait l'air très sûr de lui et parlait avec un langage très distingué.
Par la suite, nous nous sommes déplacés un étage au-dessus, dans une autre salle d'audience, pour interroger la responsable du greffe, le président du tribunal et une greffière.
Il y a plusieurs tribunaux à Montpellier. Quelle différence y a-t-il entre la cité judiciaire méditerranée et les autres tribunaux ?
Alors, la cité judiciaire méditerranée regroupe 3 juridictions.
Monsieur Reynaud, président du tribunal.
Plus précisément, le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'instance et le Tribunal de commerce. Le Tribunal de commerce règle les litiges qui concernent les commerçants entre eux. Ensuite, le Conseil des Prud'hommes règle les litiges entre les employeurs et les salariés. Le Tribunal d'instance, lui, c'est un tribunal d'une compétence très élargie. C'est-à-dire qu'il s'occupe en général des petites affaires, au moins jusqu'à 10 000 euros. Et puis ensuite, on lui a donné compétence pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, si une personne n'a pas pu payer son loyer ou on demande son expulsion, on vient voir le juge d'instance. Le juge comme moi. En revanche, à la cité judiciaire, nouvelle cité judiciaire qui se trouve de l'autre côté, près du Pérou, là, il y a le tribunal de grande instance. Et il y a un troisième lieu, qui est la cour d'appel, qui se situe près du Pérou. Je ne sais pas si vous avez vu, près du Pérou, les grandes colonnes du palais de justice, qui est la cour d'appel. Voilà les 3 sites de justice.
En quoi consiste exactement votre travail de président du tribunal ?
Le président du tribunal, c'est celui qui organise les services. On est plusieurs juges et il faut bien que l'on puisse s'entendre pour savoir qui va faire quoi. Donc le président du tribunal d'instance, lui, il va dire on va se répartir le travail à faire de telle ou telle façon. Alors je dirais à un collègue, je lui dirais tu pourrais faire ceci, tu vas t'occuper de telle audience, telle affaire, toi tu t'occuperas de ceci, moi je m'occuperai de ceci, mais nous faisons ça en discussion, c'est-à-dire que je leur demande avant qu'est-ce qu'ils souhaitent un peu faire. Et après le président, eh bien, il est là pour trancher.
Quelle est la fonction d'un juge dans un tribunal ?
Alors, la fonction du juge, c'est de juger. C'est-à-dire, il y en a un qui dit « je veux ceci » et l'autre, il dit ah « ben, je ne suis pas tout à fait d'accord ». Et il appartient au juge de dire quel est le droit. Les lois sont prévues. Le juge est là pour les faire appliquer. Il n'a pas un pouvoir comme sous Saint-Louis ou Louis XIV qui pouvait décider de ce qu'il souhaitait. Nous, les juges, nous jugeons en fonction des textes. Uniquement en fonction des textes.
Quel est le rôle d'un greffier ?
Alors, le rôle d'un greffier est d'assister un magistrat à l'audience et prendre note de tout ce que disent les personnes.
Madame Belin, greffière.
Le greffier est là aussi pour authentifier les actes. C'est-à-dire que dans un jugement, le juge rédige, va signer le jugement et le greffier va apposer sa signature à côté du juge ou du président. Le greffier est là aussi pour être le garant de la procédure. C'est-à-dire comment on va saisir la juridiction, comment les personnes qui ne sont pas contentes de cette décision vont pouvoir exercer une voie de recours. Voilà le rôle du greffier.
Merci, Madame Belin.
Au cours de cette audience auquel est convié...
Je trouve ce président très bavard,
mais aussi très rigolo et surtout intéressant.
Je comprends mieux ce qu'est la justice et ce qui se passe dans un tribunal.
On a appris beaucoup de choses.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et qui ont répondu gentiment à nos questions.
L'écho de Carta.
Quiz, quiz. Devinette et devinette.
Question, réponse.
Yalla, l'abo.
Charade, j'étais beau.
C'est Bader et j'ai une charade pour vous. Écoutez bien. Mon premier est un rongeur. Mon deuxième n'est pas long. Mon troisième coupe. Mon tout est un chemin plus rapide. Que suis-je?
Aucune idée.
Un raccourci.
D'accord.
Issam, ça te dit de faire un petit tour du monde?
Magnifique, je rêve de découvrir d'autres pays.
Marvin, Hugo, Zacharia et Enzo se sont intéressés au fonctionnement des écoles dans le monde.
La 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 la. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va en balade.
Dans notre école, il y a une maîtresse spéciale, Marine, qui apprend le français aux enfants venus d'ailleurs. Dans notre classe, William est arrivé d'Italie, Oscar de Taïwan, en Chine, et Nerel de Mongolie. Cela nous a donné envie de chercher comment se passe l'école dans leur pays. Et tous les enfants ont fait des recherches sur différents pays.
Nous avons découvert que ce n'était pas pareil partout.
Par exemple, au Burkina Faso, S'il te plaît, Thierry, tu peux arrêter? On aimerait continuer notre émission, surtout Marvin, sa phrase.
Au Burkina Faso, il y a le CP1 et le CP2, avant le CE1, CE2, CM1, CM2.
Des fois, le CP, chouette, j'adore.
Oui, mais donc, l'école est obligatoire jusqu'à 17 ans au Burkina. En France, c'est 16 ans.
En Espagne, c'est comme...
S'il te plaît, tu peux encore éteindre la musique là? Allez! Éteins-la s'il te plaît.
En Espagne, c'est comme en France jusqu'à 16 ans.
Au Brésil, ils vont à l'école jusqu'à.
Thierry, arrête, allez! Même si elle est bien la musique quand même, arrête! J'aimerais terminer ma phrase. Allez, dépêche-toi!
Au Brésil, ils vont à l'école jusqu'à 18 ans, mais ils n'y vont que le matin, de 7h à midi, ou l'après-midi, de 13h à 18h.
Les Chinois commencent l'école à 7...
On a compris que pour chaque pays, tu faisais une musique différente, mais arrête, là! On aimerait terminer notre émission! Allez!
Les Chinois commencent l'école à 7h le matin et terminent à 20h30. Du moins, c'est ce que nous a dit Oscar.
Eh ben, moi, à 20h30, je vais me coucher.
Attention, ils font une pause de 11h à 15h30 pour manger et se reposer.
Tout de même, ils doivent être fatigués le soir. Les élèves espagnols, eux, vont à l'école du lundi au vendredi de 8h à 15h. Par contre, ils mangent juste un sandwich à la récréation. Et ils font leurs devoirs à la maison après la classe. À tout à l'heure, voici mon bus qui me ramène.
Moi j'y vais à pied, c'est plus écologique. En 5 minutes, je suis arrivée.
Au Burkina, tous les enfants vont à pied à l'école sauf ceux dont les parents ont une voiture. Des fois, ça peut être long à pied.
Les Brésiliens font de l'autostop quand ils n'ont pas de voiture ou de bus pour les amener.
L'autostop, c'est gratuit. Partout dans le monde, la campagne ou la ville, c'est différent. Dans les villes, l'école est souvent proche. À la campagne, il faut se déplacer. En France, en Espagne, aux États-Unis, il y a des bustes de ramassage scolaire.
Et en Chine, comment font-ils ?
Eh bien, nous n'avons pas réussi à savoir. Si quelqu'un peut nous en dire plus, vous pouvez nous appeler à l'école.
Quand l'école est trop loin, qu'il n'y a pas de ramassage pour y aller, que les familles ont très peu d'argent pour se nourrir, les enfants ne sont pas scolarisés.
Youpi, j'y vais.
Oui, mais il faudra sûrement que tu travailles pour manger.
C'est vrai ? Alors je crois que je reste ici.
Il y a 70 millions d'enfants dans le monde et 71 millions d'adolescents qui ne vont pas à l'école. Ils deviennent des adultes analphabètes.
Analphabètes, ça veut dire qu'on ne sait ni lire ni écrire.
C'est en Afrique subsaharienne qu'il y a le plus d'enfants non scolarisés.
On espère que ça va s'arranger pour eux. Finalement, on est bien à l'école en France.
Moi je testerai bien les school bus américains.
Moi, je suis tentée par les 4h30 de repos des Chinois.
Et moi, j'ai envie de faire de l'autostop avec mes amis au Brésil. Bon, les amis, c'est pas tout ça. La récré est terminée. Il est l'heure d'aller travailler.
Je me rends compte de la chance que nous avons d'aller à l'école et de préparer une émission de radio. Allez, une petite blague pour se changer les idées.
Moi, c'est Elliot et j'ai une devinette pour vous. Pourquoi les éléphants n'ont-ils pas d'ordinateur ?
Des éléphants, des ordinateurs, n'importe quoi.
Alors, vous l'avez trouvé ?
Oui, c'est parce qu'ils ont peur des souris.
Bien joué, bingo les amis, c'est juste.
La zig du jour avec ni, faire, lo, Lopez.
Oui, elle a cassé son unité centrale. Fatima, Lucie, parlez-nous de musique pendant que je la répare.
C'est la zig, c'est la zig du jour, yo.
Au clair de la lune.
Yo.
Parlons de Jennifer Lopez.
C'est une artiste américaine, on la connaît surtout comme chanteuse, mais elle est aussi actrice et productrice de cinéma.
Elle est née en 1969 à New York.
Mon amie, fan de Jennifer Lopez, m'a dit qu'elle avait vendu 55 millions de disques dans le monde.
La chanson que nous avons choisie, On the Floor, est une reprise de la Lambada.
Savez-vous ce qu'est une reprise ?
On prend une chanson ou une musique qui existe déjà et on l'arrange à notre façon.
Par exemple, Jennifer Lopez s'est inspirée de la Lambada. C'est une musique latine du groupe Kaoma qui a connu un grand succès en 1989. On l'écoute.
Et pour comparer, voici 20 ans plus tard, la reprise de Jennifer Lopez, On the Floor. Écoutez bien la ressemblance au début.
J-Lo, y'a tout ça, non maintenant.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, daddy. Get on the floor. Red
one. Let me introduce you to my party people. In the club,
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're
différence.
Moi, je préfère la reprise de Jennifer Lopez.
Pourquoi ?
Parce qu'on bouge plus.
Ah, moi, je préfère la Lambada de Kaoma. C'est moins électro.
Chacun son style.
L'écho de Carta.
À présent, retrouvons Daniel, William, Cédric et leur invité très connu dans le monde de la science. Ils vont nous éclairer sur un sujet d'actualité, le séisme.
Rubrique science. La science.
J'y arrive pas, je comprends rien.
Ben, concentrez-vous. Mais comment ça marche?
5, 4, 3, 2, 1, contact.
Chers auditeurs, des séismes se sont produits au Japon au mois de mars et encore plus récemment en Espagne.
Ils ont bouleversé les peuples qu'ils ont subis. Aussi, nous parlons de ce sujet aujourd'hui car il est d'actualité.
Un professeur grand spécialiste des séismes est là sur le plateau afin de répondre à nos questions.
J'espère que nous aurons toutes les réponses nécessaires pour mieux comprendre.
Il s'agit du professeur Julio Borkington.
Bonjour professeur.
Bonjour les enfants, je suis à votre disposition.
Petit, vous avez vécu un séisme dans votre ville natale. C'est pour cela que vous vous êtes intéressé au phénomène naturel?
Bravo, vous en savez beaucoup sur ma vie.
Alors professeur Borkington, pouvez-vous nous expliquer comment se produit un séisme?
C'est simple, un séisme se produit quand deux plaques lithosphériques se rencontrent.
Mais c'est quoi une plaque lithosphérique?
C'est un morceau de la croûte terrestre. Imaginez que la Terre est une orange. La croûte terrestre sera la peau et la pulpe sera à l'intérieur de la terre. Imaginez maintenant que cette peau d'orange se déchire en plusieurs morceaux. Les morceaux de la terre se déplacent à la surface et se collent les uns contre les autres. Ces chocs entre les morceaux de la croûte terrestre provoquent des tremblements de terre.
Pourquoi les gros séismes au Japon y a-t-il été suivi d'autres séismes plus petits?
Il y a d'abord eu un gros choc entre deux plaques en mouvement. Il produit un séisme très puissant. Il faut ensuite un peu de temps pour que les mouvements s'arrêtent. C'est ça qui provoque les petits séismes qui suivent le grand. On les appelle les répliques.
J'ai entendu parler de l'échelle de Richter. Pouvez-vous nous en apprendre plus sur cela?
L'échelle de Richter mesure la force du séisme. On dit la magnitude. Elle est graduée de 1 à 9. Celui du Japon a été mesuré à 9. C'est le maximum.
Est-il possible qu'un séisme provoque des catastrophes naturelles?
Oui, c'est le séisme sous-marin. Il peut provoquer un raz de marée, et plus précisément un tsunami. C'est une énorme vague qui se forme loin des côtes. En arrivant sur les plages, elle dévaste tout sur son passage.
Au Japon, quelle catastrophe a-t-elle fait le plus de victimes?
C'est le tsunami, plus que les secousses du séisme, qui a généré le plus de victimes. Environ 28 000 morts. Les Japonais sont préparés dès l'école à se protéger contre les tremblements de terre. Mais contre les tsunamis, ils ne peuvent pas se défendre, car ils ont peur de sa vitesse et sa grandeur.
Merci professeur Borkington.
Maintenant nous connaissons mieux les séismes.
Merci de m'avoir écouté. D'habitude, les enfants préfèrent jouer aux jeux vidéo. Continuez, peut-être deviendrez-vous sismologue plus tard.
Au revoir professeur.
Au revoir les enfants.
Eh bien, moi, je n'ai rien pigé.
Rappelle-toi, alors, la croûte terrestre, l'orange, l'échelle de Richter.
Moi, c'est Fatima. J'ai une devinette pour vous. Écoutez bien. Le matin, je suis sans main ni jambes. J'ai une nageoire le midi et quatre pattes le soir. Allez, je vous donne un indice. C'est un animal. Une grenouille. Le matin, c'est un œuf. Le midi, un têtard. Et le soir, une grenouille.
Bien sûr.
Allô, allô, je vois une grenouille dans l'eau. Elle s'approche d'un moulin. Elle voit des enfants. Adam, Dunia, Alizé et Émile sont en classe verte.
C'est l'écho des cartables sur Divergence Extrême, SM, FM, 93.9.
C'est cool!
Vous vous souvenez quand nous étions en classe verte?
C'était trop bien. Nous sommes allés dans un petit village du Tarn qui s'appelle Burlat. C'est tout près de Castres.
C'est là que nous avons fait de la musique avec Fabrice pendant un spectacle musical.
Il était notre éducateur musical. Avec lui, nous avons inventé une chanson que j'adore, un rap extra, qui s'appelle « Tout est bien qui finit bien ».
Oumaima, Fatima, Elliot, Marvin, Hicham et Adam ont enregistré chacun des petits morceaux. Super bon moment de rigolade.
Moi, ma chanson préférée, c'est « On a tous besoin d'un loup ».
Sans loup, plus d'histoire.
Mais chut, c'est un secret pour notre spectacle de fin d'année.
Bon, ça va, d'accord.
Mais revenons à Fabrice.
Un extraordinaire professeur de musique.
Qui se sert beaucoup de son ordinateur et de son piano.
Le violoncelle, c'est son dada.
Il sait bien nous encourager et nous donne envie.
Vous avez envie de rencontrer Fabrice pour en savoir plus ? Téléphonons-lui, tu connais le numéro ?
Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Nous sommes les enfants de la classe d'Elsa Charlot. Nous étions venus au Moulin des Citelles en mars. Nous aimerons t'interviewer pour notre émission de radio.
Très bien, je vous écoute.
Pourquoi et comment es-tu devenu éducateur musical ?
Je suis devenu éducateur musical parce que j'aime beaucoup les enfants et j'aime beaucoup la musique. Comme j'ai commencé à apprendre la musique très tôt, je devais avoir peut-être 5 ans, 6 ans, elle m'a toujours bercé, accompagné. Ma maman était professeure de musique. Alors, comme j'aime beaucoup les enfants et la musique, quoi de mieux qu'apprendre la musique aux enfants ?
Tu te sers beaucoup de ton ordinateur, autant que des instruments. Qu'est-ce qu'il apporte de plus à la musique ?
L'ordinateur est un outil très important pour moi. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je l'ai baptisé Mirabel. L'ordinateur me sert à enregistrer des enfants et, après avoir joué des instruments ou chanté, ils peuvent facilement se réécouter et apprécier ce qu'ils ont fait. Très vite, ils pourront entendre s'ils ont fait des bêtises comme des baguettes qui tombent ou du bavardage ou s'ils ont joué trop fort, trop lentement, pas assez vite. Et ensuite, ils vont pouvoir corriger leurs gestes, puis réenregistrer pour constater le progrès. L'ordinateur me sert également à faire en quelque sorte le papier cadeau. Grâce à certains logiciels, je peux corriger des petits détails qui sont un petit peu manqués dans l'enregistrement et faire en sorte que ce soit plus joli. Et puis avec le synthé, je peux fabriquer du vent, je peux mettre des oiseaux, de la rivière, je peux mettre toutes sortes de bruitages et agrémenter les productions des enfants.
Au revoir et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous étions très contents d'avoir écouté encore une fois ta voix.
Merci beaucoup les enfants, je vous fais des gros bisous. Au revoir.
Au revoir.
Il nous a encore appris sur son métier et pourtant il nous en avait déjà raconté beaucoup.
Cela nous remet d'excellents souvenirs en tête. On y retournerait bien.
Si un jour vous passez près de Castres, faites un détour jusqu'à Burlat et allez voir le Moulin des Citelles.
C'était bien, Hichem, l'interview, la musique. Fini de rêvasser, au boulot.
Ça, tu l'as dit. Une autre charade, peut-être ?
Moi, je m'appelle Cassandre et j'ai une charade à vous raconter. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de rapide. Mon troisième est le contraire de matin. Mon tout est un jeu d'extérieur. Un toboggan ?
Un tourniquet ?
L'épervier ?
Mais non, une balançoire !
Mais bien sûr !
Et on repart aux quatre coins du monde pour cette fois-ci les langues étrangères avec Eneral qui nous vient de Mongolie
et Oscar qui est taïwanais. Enfin, toute la classe qui va nous chanter une chanson en allemand. En route !
Hello !
Bonjour !
Salam alaikum ! Kalam bil arabi !
I speak English !
Parijitanu !
Hablo español !
Hello, Trobi Jiren.
Hola.
Я говорю по-русски. Hola.
Giorno.
Buon dia.
Adieu.
Ich spreche Deutsch.
Guten Tag.
Buongiorno.
Bonjour.
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 Bonjour. On a deux enfants dans notre classe qui sont arrivés de Chine. Oscar de Taïwan et Eneral de Mongolie. Écoutons leurs langues qui sont, vous allez voir, très différentes. À toi, Oscar.
Ni hao, Oscar, là, de Taïwan.
Qu'est-ce que tu dis ?
Oscar, là, de Taïwan.
Bien sûr, je traduis. Il a dit bonjour, je m'appelle Oscar et je viens de Taïwan. Écoutons maintenant Eneral. Vous avez entendu ? Leurs langues sont très différentes, même s'ils viennent de Chine tous les deux. Ils ont aussi une écriture complètement différente. Celles de Mongolie ressemblent plus à la nôtre, même si les signes sont différents. Le chinois, par contre, utilise des idéogrammes. Ce sont comme des dessins, pas des lettres qui représentent un son
Revenons à leur langue. Ça ne doit pas être facile pour eux dans la classe. Quand même, je trouve qu'ils apprennent vite le français. On est fiers d'eux. Là, c'est William qui est arrivé en novembre d'Italie, de Vérone. William, tu nous dis quelque chose en italien ?
Buongiorno, vengo d'Italia, mi chiamo William.
Ça va mieux. L'italien est une langue latine, comme le français. Et comme l'espagnol d'ailleurs. Guillermo est de la famille en Espagne. Tu te présentes, Guillermo ?
Hola, me llamo Guillermo y tengo familia en España.
Moi, mon papa est anglais et je suis né à Londres, alors je vous le dis en anglais. Hello, my name is Jules and I come from London. En classe, heureusement, on apprend tous l'allemand. Voici une petite chanson allemande dans laquelle il y a des fantômes et un certain Dracula. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Thierry, la maîtresse.
À ceux qui nous ont fait partager leur savoir, le professeur Burkinton, Fabrice et les professionnels du tribunal.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette 15e édition.
Nous avons passé un merveilleux moment, même si on en avait bavé.
Cela fait presque 3 semaines que nous travaillons sur les sujets que vous avez pu suivre aujourd'hui.
Notre vocabulaire s'est enrichi, nous avons appris à contrôler nos émotions et également bien apprécié le travail d'équipe.
Voici maintenant ceux qui ont réalisé cette émission, qui attendent les vacances avec impatience et la rentrée en 6e.
Cassandre,
Alizé,
Oumaima,
Fatima,
William,
Bader,
Enzo,
Cédric,
Adrien,
Guillaume,
Jules,
Hugo,
NRL,
Oscar,
Hicham,
Dounia,
Guillermo,
Émile,
Lucille,
Marvin,
Daniel,
Eliott,
Zacharia,
Lucie,
Adam.
N'oubliez pas votre crème solaire et votre parasol.
Au revoir, bonnes vacances.